Bonjour, je suis Nolan. Je suis en 5e 8 avec mes camarades Maji, Gabin, Yacine, Bradley et Ethan. Nous aimerions connaître ce qui est le métier de marin-pêcheur. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier dur et dangereux? Qui vous a incité?
Par qui m'a incité? Alors, c'est une très bonne question. Bonjour à tous déjà. Très bonne question. En fait, mon père était pêcheur. Mon grand-père était pêcheur, et du coup, c'était une évidence. Donc, je me suis retrouvé pendant les vacances scolaires à naviguer avec mon père, et donc, du coup, j'ai sauté dans le bain, et donc, je suis devenu marin-pêcheur. Mais dur et dangereux, c'est pas, je dirais pas, oui, mais pas plus que ça. Hein. Mon avis, c'est pas plus dur que le métier de maçon. C'est un métier... Ouais, effectivement, ça bouge en permanence, mais c'est avec de l'habitude, hein, ça disons qu'avec le pied marin, ça on veut dire que ça le fait bien, quoi. Donc, dur, je vais juste donner quelques informations sur l'évolution sur les navires. Donc, effectivement, il y a très longtemps, c'était un métier très, très, très dur. Donc, aujourd'hui, tout est robotisé, automatisé. Donc, tous les outils sont hydrauliques. Et en fait, tout est pensé pour que le marin fasse le moins d'efforts possible. Et le travail se fait à hauteur. Et donc, du coup, il y a beaucoup de mots qui disparaissent, en fait. Donc, c'est beaucoup moins dur que ça a été. Et puis, comment le métier de pêcheur, hein, c'est métier de passion. Donc, on est attiré par la mer et une petite sensation de liberté, malgré tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans un bureau.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Vous voulez que je me présente?
Oui.
C'est ça? D'accord. Ben, comment ton collègue m'a tout de suite envoyé une petite question, donc je suis parti là-dessus. Donc, moi, je m'appelle Jacques Coutouy, et donc je suis directeur de l'école des formations maritimes sur les Sables-d'Olonne et sur l'Île-Dieu. Et donc, ma particularité, c'est que j'étais marin-pêcheur. J'ai commencé comme marin-pêcheur, hein, de 16 ans jusqu'à 26 ans. Et puis, j'ai eu un petit souci de santé qui m'a empêché de continuer la pêche. Donc, je suis parti sur le navire au commerce, donc sur un pétrolier, notamment. Et puis, l'enseignement m'a appelé, et donc j'ai commencé à enseigner, et j'y suis depuis 30 ans bientôt.
Que faites-vous sur le bateau? Pouvez-vous nous raconter une journée en mer?
Alors, sur un bateau, donc est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un bateau de pêche, mais il y a plusieurs bateaux de pêche? Est-ce que vous savez ça?
Non. Oui.
Non. Alors, on va commencer par ça. C'est-à-dire qu'il y a différents types de navires. Donc, il y a des navires qu'on appelle des chalutiers. Les chalutiers utilisent ce qu'on appelle des arts traînants. C'est-à-dire, c'est un gros filet qu'on traîne derrière le navire, soit dans le fond, soit entre deux eaux. D'accord? Et puis après, vous avez des navires, ce qu'on appelle polyvalents, donc des casilleurs, donc des bateaux qui pêchent au casier, ou des ligneurs. Des bateaux qui pêchent avec des hameçons, ou des filayeurs, des bateaux qui pêchent au filet. Et comment tous ces navires ont des techniques de pêche bien différentes. Et donc, une journée de pêche ne ressemble pas du tout d'un navire à un autre. Et en plus, sur ces différents types de navires que je viens de vous expliquer, hein, vous avez des navires qui font entre 8 et 15 mètres, et puis d'autres qui font entre 15 et 24 mètres. Donc, selon la longueur, ils vont partir à la journée ou ils vont partir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, forcément, les journées sont différentes. Donc, je peux vous donner un exemple, hein, d'une journée en mer, sur un côtier qui fait le filet, par exemple. Et donc, ils vont partir à 6 heures du matin, et quelques fois, c'est plus tôt que ça. Hein. Donc, ils vont avoir une heure ou deux heures de route pour arriver sur les lieux de pêche. Et ils vont relever les filets qui ont été mis à l'eau la veille, qui ont pêché toute la nuit. Donc ça tient au fond avec des poids, hein, et puis il y a des bouées pour les récupérer. Donc pendant le virage, pendant que les filets sont remontés à bord du bateau, donc le poisson on va dire, enlevé du filet. Il va être nettoyé. Donc, on appelle de l'éviscération ou de l'étripage. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là. En tout cas, on va enlever les boyaux, hein, donc pour certaines espèces. Et ils vont être lavés et puis mis en cale, donc au frais, avec de la glace. Et puis, le bateau va, après avoir relevé tous ses filets, hein, donc traité toutes les espèces, bah, les filets vont être remis à l'eau, et puis on va retourner vers le port. Et l'arrivée vers le port, ça dépend, hein, ça va être entre midi et 16 heures. Donc la sortie en mer peut varier entre 8 heures, 10 heures, 12 heures en mer. Et donc ça dépend de la fonction, ça dépend de la quantité de poissons pêchés. Donc plus il y a de poissons, bah, plus on met du temps à remonter le matériel. Et puis après, le poisson est débarqué à la marée. Donc c'est ce qu'on appelle une criée. Et donc le poisson est vendu dans la nuit après. Est-ce que j'ai donné trop d'informations ou est-ce que ça va?
À quel âge on peut commencer?
À quel âge peut-on commencer? Très tôt. Très tôt, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en CAP maritime et ils commencent à 15 ans, dès la sortie du collège. C'est-à-dire que normalement, l'apprentissage, ça commence à 16 ans. Mais si on sort de 3e, on peut commencer à 15 ans. Et à 15 ans, on peut embarquer, on peut signer déjà un contrat d'apprentissage sur un navire pour commencer à naviguer. Il y en a d'autres qui choisissent la voie scolaire, donc ils vont aller soit en CAP, soit en bac pro, dans des lycées maritimes, et ils vont commencer à naviguer, ils vont faire quelques stages quand même, mais ils commenceront à naviguer qu'à 17-18 ans. Mais le plus tôt, c'est 15 ans.
Quel matériel utilisez-vous?
Quel matériel, c'est-à-dire?
Bah, des pêches pour pêcher.
Je l'ai expliqué un petit peu juste avant là. Donc j'ai parlé de chalut. Donc quand j'ai parlé des différents navires, donc ces différents navires utilisent des différentes techniques de pêche. Donc on va avoir le chalut, hein, donc c'est un gros filet qui est tiré sur le fond, là, donc avec des panneaux divergents. Et on va avoir des dragues. Les dragues à coquilles, par exemple, coquilles Saint-Jacques, ça vous parle. Et donc, c'est encore autre chose. Hein. Et puis, vous allez avoir les casiers. Donc, il y a des casiers à homard, il y a des casiers à crabe, il y a des casiers à rayer, des casiers à crevettes. Ensuite, vous allez avoir les filets. Donc, les filets, il y a différentes techniques de filets. Hein. Donc, il y a des filets à sol, il y a des filets à barre, il y a des filets à merlu. Donc, en fait, selon l'espèce que l'on veut sélectionner, on choisit la taille du matériel qui va bien.
Quelle formation ou connaissance faut-il un diplôme?
Alors, pour pouvoir embarquer sur un navire, hormis le CAP, parce que les CAP en apprentissage, donc ils peuvent embarquer directement sur le navire et faire leur formation à bord du navire et au CFA, donc au centre de formation d'apprentis. Mais sinon, il faut ce qu'on appelle un certificat matelot-pont. Donc le certificat matelot-pont, hein, est obligatoire pour pouvoir naviguer sur un navire. Donc différentes solutions pour le passer. Hein, donc si on a moins de 18 ans, donc si on est mineur, donc on peut soit passer via un CAP, soit par un bac pro pour obtenir ce certificat matelot-pont. Si on est adulte, si on a plus de 18 ans, il y a une formation, ce qu'on appelle la formation continue pour adultes. Et la formation dure beaucoup moins longtemps, donc c'est 3 mois. 3 mois de formation pour pouvoir embarquer sur un navire. Et sans ce certificat matelot-pont, on ne peut pas naviguer sur un navire professionnel.
Vous partez combien de temps en mer?
Alors, la sortie en mer dépend de la taille du navire. Donc on a vu, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait différentes tailles de navires. Hein, donc toutes les techniques de pêche que je vous ai expliquées, vous avez des navires qui vont intervenir. Donc les petits navires, généralement, sortent à la journée. Donc ils partent le matin et ils rentrent l'après-midi ou le soir. Et puis vous avez des plus gros navires, hein, qui font entre 15 et on va dire 20-25 mètres. Et ces navires-là vont partir plusieurs jours. Donc, quelquefois 2 jours, 3 jours. Et des fois, c'est une semaine. Des fois, c'est davantage. Des fois, c'est 15 jours. Donc, quand moi, j'ai pêché le thon comme au filet quand j'étais jeune, donc on partait entre 15 jours et 3 semaines de mer. Donc maintenant, c'est plus ça va, plus les marées sont courtes. C'est-à-dire, plus le temps en mer est court. Pour la simple et bonne raison, c'est que le pêcheur, au fur et à mesure des années, hein, donc, travaille plutôt sur la qualité du poisson plutôt que sur la quantité. C'est-à-dire que comment ils préfèrent rentrer tous les 2-3 jours au port et vendre du poisson de très très bonne qualité. Et un poisson de très très bonne qualité, ça se vend très très cher. Donc du coup, ils rentrent plus souvent. Mais quelquefois, ils vont rentrer, donc même des gros hein, qui font entre 15 et 20 mètres, hein, ils vont rentrer tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais sans rentrer chez eux. Ils viennent juste au port, ils débarquent la pêche et ils repartent aussitôt pour 2-3 jours. Et ils font ça pendant une petite semaine, une semaine ou 10 jours.
Vous êtes combien sur le bateau ?
Toujours la même chose, ça dépend de la taille du navire. Donc sur un navire de 8 mètres, ils vont pouvoir être seuls, à deux. Et puis sur les gros, hein, donc ils vont aller jusqu'à 6, 7, 7 membres d'équipage. Avec le patron.
Vous pouvez aller où vous voulez en mer et vous pouvez pêcher ce que vous voulez. Qui décide ?
Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, la pêche est en fait, comme le métier de pêcheur, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est hyper réglementé. Voilà. Donc, c'est soumis aux règlements européens et français, voire des règlements internationaux, hein. Par exemple pour le thon ou le requin. Donc, ça s'applique, toute cette réglementation s'applique par la mise en place de quotas. Alors, des quotas, hein, c'est des quantités de poissons qui peuvent être pêchées, donc par une flottille, sur une zone, par port, voire par bateau. C'est-à-dire que comment on va se partager, donc on a tant de tonnes de poissons à pêcher, et donc un bateau va se retrouver à pêcher quelques centaines de kilos ou quelques tonnes de poissons sur une zone et sur une espèce. Et en fait, il est obligé de marquer exactement ce qu'il a pêché. Donc aujourd'hui, tous les navires de plus de 12 mètres ont ce qu'on appelle un journal de bord électronique. C'est-à-dire que tous les poissons qui sont pêchés, donc c'est enregistré au kilo près. Et ils sont suivis en temps réel hein, par satellite. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils étaient ailleurs, ils ne peuvent pas tricher. Et de plus en plus, hein, y a des caméras ou des observateurs hein, qui sont embarqués à bord des navires hein, pour vérifier que les pêcheurs ne font pas n'importe quoi. Et puis, autre réglementation, hein, c'est la taille marchande des poissons. C'est-à-dire qu'il y a une taille à respecter. C'est-à-dire, par exemple, le bar, je ne sais pas si vous connaissez le bar, hein, mais le bar, c'est 40 cm. Donc, si le bar ne fait pas 40 cm, il est remis à l'eau. Tous les poissons ont des tailles. Et puis, les engins de pêche sont réglementés également. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir la taille du filet, des mailles du filet, en tout cas, ne peuvent pas être plus petits que le règlement l'impose. Donc il n'y a pas plus réglementé que la pêche.
C'est quoi une zone ?
Une zone ? Alors les zones, elles sont définies par le conseil interprofessionnel. Donc c'est au niveau européen. Hein. Donc il y a, par exemple, le golfe de Gascogne est divisé en deux zones. Donc il y a la zone 8.1 et 8.B. Et la mer du Nord, même chose. Hein. En fait, le golfe de Gascogne, mer du Nord, la Manche, tout est sectionné en différentes zones. Et donc, les bateaux peuvent aller pêcher dans une zone, mais ils ne sont pas forcément autorisés à aller dans une autre. Et ils sont donc c'est respecté comme ça, par satellite.
Qu'est-ce qu'il y a dans la formation de marin-pêcheur ?
J'ai pas, tu peux répéter, s'il te plaît?
Qu'est-ce qu'il y a dans la formation de marin-pêcheur?
Qu'est-ce qu'il y a dans la formation?
Oui.
À l'école? Alors, dans la formation, donc on va trouver de la navigation, donc apprendre à naviguer, à se situer sur une carte, hein, à utiliser les ordinateurs, les applications de navigation. Donc vous allez avoir du sondeur, du radar, etc. Hein. Et GPS, utilisation du GPS, pour pouvoir se diriger. Et vous allez apprendre également pendant la formation à effectuer des nœuds. Donc être capable, c'est ce qu'on appelle du matelotage, c'est-à-dire l'apprentissage des nœuds. Et vous allez apprendre également à réparer des filets. C'est ce qu'on appelle du ramandage. Et monter du matériel, c'est-à-dire être capable de monter un filet, être capable de monter un chalut, donc de créer un casier, etc. Donc on apprend toutes les techniques de pêche, hein, comment ça fonctionne, les différentes espèces de poissons, donc tout ce qui est biodiversité. Donc c'est ce qu'on appelle donc le plancton. Donc on va apprendre comment se déplacent les espèces. Hein. Donc, s'ils migrent pour se renouveler ou pour manger, etc. Donc, voilà ce qu'on va apprendre à l'école, entre autres. Et puis, il y a toute la partie sécurité. Donc, vous avez dit que c'était un métier dur, mais aussi dangereux. Donc, justement, la sécurité fait partie de la formation. Et pour apprendre à pas faire n'importe quoi et à pas se mettre en danger.
Vous ramenez quelle quantité de poissons? Quels sont les types de poissons que vous pêchez?
Alors moi je pêche plus, mais les navires qui sont sur les sables de Lonne, sur les lieux, hein, donc il y a différentes espèces. Donc on a des bateaux qui font le thon l'été, on pêche le thon. Donc il y en a d'autres qui pêchent le merlu, d'autres qui pêchent la sole. D'autres qui pêchent le bar, donc il y en a d'autres qui pêchent la lotte. Donc ce sont à peu près toutes les espèces qui sont pêchées dans le golfe de Gascogne. Et en quantité, toujours la même chose, hein, ça dépend du navire. Donc plus le navire est gros, plus il met de matériel, plus son chalut est gros, plus il a de filets à l'eau, et donc plus il va ramener de grosses quantités. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc aujourd'hui on travaille plutôt sur la qualité que sur la quantité. Donc effectivement, ramener beaucoup tous les jours ou tous les deux jours, c'est bien. Mais c'est surtout la qualité qui est importante.
Le bateau se conduit-il facilement? Avez-vous un équipement qui facilite la navigation?
Alors des équipements, en fait, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais il y a une passerelle de navires de pêche. Hein. Il n'y a que des équipements de navigation. Donc il y a des sondeurs, des radars, des GPS, il y a les appareils de communication. Et en fait, tout le poste de commandement d'un navire, hein, c'est que du matériel de navigation. Et parce que ça fait partie de la sécurité, et donc il est important de savoir exactement où on est, et il est important de savoir exactement où sont les autres, et comment manœuvrer pour les éviter. Parce que souvent, il y a du monde sur l'eau, on n'est pas tout seul.
Vous avez aussi des tâches administratives. Lesquelles?
Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, donc le journal de bord électronique en fait partie, d'accord? Et c'est un document qui est en ligne, donc il fonctionne avec Internet, hein, parce qu'il y a Internet à bord des navires. Et via les satellites. Et donc ils vont marquer exactement le jour où ils sont sortis, à quelle heure. Vers quelle zone de pêche ils sont allés, d'accord? Quel type de matériel ils ont mis à l'eau? Quelle quantité de poissons ils ont pêché? Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est au kilo près. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs d'appréciation, le patron, hein, le capitaine, hein, peut aller devant les tribunaux, hein, s'il fait des mauvaises déclarations. Et c'est du correctionnel. Donc, il pourrait faire de la prison. Donc, ce sont d'abord des amendes, hein, mais il pourrait faire de la prison. Et puis après, il y a tous les documents de sécurité. C'est-à-dire que le navire hein, doit être apte à prendre la mer. Et donc, il y a des. À chaque fois, hein, donc, il y a des documents à compléter. Donc, l'équipage doit être déclaré pour pouvoir partir en mer. Et donc, tout le monde doit avoir sa visite de sécurité, sa visite médicale à jour, etc. Donc, il doit vérifier que tout le bateau, que le bateau soit en toute sécurité.
Quel est le salaire d'un marin-pêcheur?
Ah! Est-ce que vous avez une idée?
Non.
Vous n'avez pas d'idée?
Non.
Est-ce que vous connaissez le salaire moyen, le SMIC, par exemple?
2500?
Non, 1500. 2500? Oh, non, c'est moins que ça. Hein.
1500?
Donc le SMIC en brut, je crois qu'on est à 1700, hein, je crois. Et 1700 euros, oui. Et donc le salaire moyen d'un pêcheur, hein, c'est entre 2005 et 3000 pour un matelot. C'est-à-dire pour un salarié, entre 2005 et 3000 à peu près. Et en fait, ça fonctionne, ça dépend du navire, ça dépend de la fonction à bord, c'est-à-dire qu'un patron va toucher beaucoup plus que le salarié, un chef mécanicien va toucher beaucoup plus que le salarié, d'accord? Et puis, d'un navire à l'autre, ça va changer. Alors, le salaire ne sera jamais le même, pour la simple et bonne raison, c'est que le marin pêcheur est payé par rapport à la quantité, à la vente du poisson. C'est-à-dire, plus il y a de ventes, plus il a vendu cher le poisson, plus il y a de quantité, et plus il y a de chiffre d'affaires, mieux sera payé le marin. Juste, je vais essayer de faire le simple, hein, mais comment le... Par exemple, sur un navire, donc on va sur une vente, on va faire un partage, on va prendre 60% pour l'armement, c'est-à-dire pour l'entreprise, et 40% pour l'équipage. Et ces 40% vont être partagés entre le patron, le chef mécanicien et tous les matelots.
Quels sont les avantages de votre métier et les inconvénients, les risques, vos satisfactions, vos déceptions?
Ah. Avantages. On va commencer par les avantages, c'est mieux. Le salaire. Le salaire est très très intéressant. Mais en fait, on ne fait pas ce métier pour le salaire. Hein. C'est vraiment cette sensation de liberté et de travailler avec passion. Donc ça, c'est un avantage. Un autre avantage, je vais parler des congés. Le bateau, en général, enfin, un marin en général, hein, sur les ports de l'Atlantique, hein, ils font à peu près 180 jours de mer à 200 jours de mer. C'est-à-dire que le reste du temps, ils sont à terre. Donc 180 jours, hein, ça fait la moitié de l'année. D'accord? Les inconvénients? Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, hein, donc ça reste les conditions de travail qui sont un peu rudes. Hein, donc quand les conditions météo ne sont pas très bonnes, donc c'est un peu plus dur. Il faut partir, donc il faut quitter sa famille. D'accord? La famille, les amis, hein. Et puis, souvent, on est obligé de défendre un petit peu le métier, hein, parce que comment, il y a toujours des a priori comment, des autres personnes. Et donc, dire que le pêcheur ne fait pas n'importe quoi, hein, et qu'il faut toujours défendre le métier de la pêche. Concernant les risques, on en a parlé tout à l'heure, hein, si le bateau il bouge tout le temps, donc risque de chute, de blessure, hein, donc ça arrive. Hein. Donc, ça en fait partie. Satisfaction d'un pêcheur. Débarquement du poisson, de qualité, donc le plus possible. Hein, donc un bateau qui pêche bien, donc on est toujours fier. Donc satisfait également de valoriser le poisson. C'est-à-dire que plus on en prend soin, mieux il est vendu. Donc c'est de la grosse satisfaction. Et puis gestion des stocks aussi. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de quotas, etc. Hein, de règlements. Donc gestion des stocks, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, donc, les stocks se renouvellent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surpêche dans le golfe de Gascogne et donc le poisson se reproduit et grossit.
Qu'est-ce qu'ils font les marins quand ils sont à terre?
Que font les marins quand ils sont à terre? Alors, quand ils arrivent à terre, donc déjà ils sont obligés de débarquer le poisson à la criée. Et ensuite, ils vont, s'ils partent plusieurs jours, ils sont obligés de faire l'avitaillement du poisson, du bateau. Hein, donc, ils sont obligés d'embarquer à bord les vivres, c'est-à-dire à manger pour pouvoir partir en mer, faire du gasoil, faire de l'eau. Hein, et puis après, c'est repos. Après, ils vont chez eux, quoi. Enfin, ils sont pas tout le temps sur le bateau. C'est-à-dire qu'ils ont des moments de repos et de congé.
Où sont les écoles, les internats marins-pêcheurs?
Alors, où sont les écoles? Donc, en fait, il n'y a pas d'école à Paris. À Conflans, il n'y a pas d'école de pêche à Conflans. Ça, c'est sûr. Donc, vous les trouvez, comment on trouve des écoles sur la côte. Donc, il y a 12 lycées maritimes sur tout le littoral. Et également des écoles de pêche, hein, comme l'école de formation maritime. Et généralement, il y a des internats, hein, dans tous les bâtiments, dans tous les lycées.
Avez-vous des craintes, des attentes, parfois envie de faire autre chose?
Alors, moi, je ne fais plus la pêche. Aujourd'hui, je sais que certains marins-pêcheurs ont quelques craintes, oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous regardez un petit peu l'actualité, hein, mais aujourd'hui, il y a des ONG là, qui font pression sur la pêche. Hein. Donc, on a l'impression d'être des mauvais élèves et d'être des pilleurs de la mer. Donc, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, de faire croire aux gens. Hein. Et donc, le marin est toujours obligé de se défendre aujourd'hui. Donc il y a des fermetures de pêche, donc il y a des arrêts-sols régulièrement. Donc en fait, ça va peut-être être trop compliqué pour vous, mais par exemple pour la sole, c'est la qualité de l'eau donc dans les fleuves qui est mauvaise. Et donc la reproduction des alevins dans les embouchures de fleuves est mauvaise. Et donc plutôt que d'aller en amont essayer d'améliorer la qualité de l'eau, on demande aux pêcheurs de moins pêcher. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Et il y a différentes mesures comme ça qui leur sont imposées, hein, et il y en a toujours de plus en plus. Et donc, oui, c'est une crainte pour les pêcheurs. Mais c'est un métier qui a de l'avenir quand même. Hein, parce qu'on en a entendu parler pendant la Covid. Hein, donc c'est la souveraineté alimentaire. Donc le pêcheur pêche du poisson, il alimente la population. Et puis vous avez également, c'est important qu'il y ait de la pêche en France. Parce qu'aujourd'hui on essaye qu'il y ait moins de consommation de carbone. Et en fait, la plupart du poisson que vous mangez provient d'ailleurs. Quand vous achetez du cabillaud, il n'est pas pêché en France, hein, il est pêché en Islande. Quand vous mangez du saumon, il vient pas de France, il vient de Norvège. La plupart du merlu que vous achetez, il vient d'Argentine. Donc, il faut acheter de poissons français.
Quel est le plus gros poisson que vous ayez attrapé?
Ah, bonne question. Très très gros. C'était un requin. Un requin taupe. Il faisait 420 kilos. Un requin. Donc, vous voyez à quoi ressemble un requin. Donc, vous voyez l'aileron qui est dessus. Donc, l'aileron, il faisait 80 cm.
Avec ce que vous avez appris, vous pouvez faire quoi?
Avec ce que j'ai appris? À quel endroit?
Marin-pêcheur.
Marin-pêcheur? Bah, disons que ça m'a permis de prendre la direction de l'école, hein, et d'être entendu par les pêcheurs. Donc ça oui. C'est-à-dire que je représente les pêcheurs aujourd'hui.
Vous avez mal compris, je voulais dire ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre. Quel autre métier?
Alors. Les brevets que l'on passe à la pêche sont des brevets polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ne servent pas que pour la pêche. Ils servent aussi à naviguer au commerce, c'est-à-dire pour naviguer sur les navires à passagers, les pétroliers, les transporteurs de containers, les porte-containers, Mais on peut naviguer également sur des navires à voile. Donc, comme pour faire du transport de passagers à la voile ou ce qu'on appelle du charter, hein, ou du convoyage de navires.
Comment ça se passe en cas de très mauvaises conditions météorologiques?
Alors, quand il fait trop mauvais, quand ils annoncent trop mauvais temps, les bateaux de pêche rentrent à terre. Et il n'y a vraiment que les gros hein, donc, qui vont rester en mer. Et souvent, ils arrêtent de pêcher. Et ils attendent le coup de vent à passer et puis ils reprennent la pêche après. Mais la plupart du temps, ils rentrent pas.
Pourquoi vous arrêtez de pêcher quand il ne fait pas très beau?
Bah parce que c'est dangereux. C'est dangereux et puis comment le matériel, on va dire ça l'abîme. Voilà. Donc c'est dangereux pour les matelots, pour l'équipage et pour le matériel. Et donc ils préfèrent arrêter quelques heures, le temps que le mauvais temps passe, et puis reprendre après.
Avez-vous peur des fois?
Si j'ai peur, à la pêche, jamais. Jamais, mais peut-être que c'est de l'imprudence, mais j'ai jamais eu peur. Par contre, j'ai eu peur sur un navire de commerce, mais jamais à la pêche. En fait, les bateaux sont très très stables.
Quel est votre plus beau souvenir?
Plus beau souvenir. Qu'est-ce que j'ai comme plus beau souvenir? Un beau souvenir, c'est être un jour rentré avec la cale pleine, au bout de 15 jours de mer. Donc il y avait 25 tonnes de thon dans la cale. Donc c'était un joli souvenir.
Qu'est-ce que ça veut dire rentrer avec la cale pleine?
Approche-toi, repose.
Ah, la cale pleine. En fait, quand on part en mer, donc le poisson est stocké dans un lieu, et donc c'est on appelle ça une cale, et la cale à poisson. Et en fait, le poisson est stocké et réfrigéré dans cette cale. Donc on peut mettre, selon le type de navire, on peut mettre quelques centaines de kilos à plusieurs tonnes. Et moi, je naviguais sur un 22 mètres et la cale faisait à peu près une vingtaine de tonnes. Donc on a mis plus de 20 tonnes dans la cale.
Avez-vous l'occasion de voyager grâce à votre métier?
Alors, le métier de pêcheur, ça m'est arrivé, oui. Donc je suis allé naviguer en Irlande. En Guadeloupe, Venezuela, en pêchant. Et au Canada, j'ai oublié le Canada.
Vous nous recommanderiez votre métier?
Ah ben forcément. C'est un métier, donc il faut. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il hein, faut aimer ça. Donc il faut essayer. Donc on met en place des marées découvertes. Alors il faut avoir 15 ans hein, pour pouvoir l'effectuer. Mais hein. C'est des marées de tests sur des navires hein, pour voir si ça plaît. Et sinon, pour les moins de 15 ans, on fait des stages dans l'école. C'est-à-dire qu'on prend un jeune ou deux jeunes hein, et puis il reste avec nous une semaine pour voir un petit peu comment ça se passe, comment la formation se déroule. Et sinon, le mieux, hein, ce sont des marées découvertes.
Avez-vous déjà eu des problèmes sur le bateau? Avez-vous une histoire à nous raconter?
Des problèmes sur le bateau? Alors moi j'étais sur un bateau qui fonctionnait très très bien, mais il y en a d'autres hein, qui ça pouvait arriver, qui tombent en panne. Et donc comme j'étais sur un bateau qui tournait bien, Ben, régulièrement, on prenait les autres bateaux en remorque. Donc voilà, donc on faisait l'assistance, on assistait les autres. Et on les remorquait jusqu'au port pour qu'ils soient réparés.
Avez-vous eu un jour où vous êtes rentré sans poisson?
Oui. Oui, ça a dû arriver. Oui. En fait, 100 poissons, 0 poisson, peut-être pas, mais pas beaucoup de poissons, oui. Alors le métier de pêcheur, hein, c'est ça, hein, c'est quelquefois on va pêcher beaucoup, et puis il y a d'autres jours on va pêcher rien du tout, ou pas grand-chose. Et c'est en fait un salaire de marin, hein, il faut pas regarder sur semaine à la semaine ou mois par mois, il faut regarder sur l'année. Il faut comparer les années. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a des périodes où on gagne beaucoup d'argent et puis d'autres où on ne gagne pas du tout. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous faites pour rentrer chez vous?
Comment je fais pour rentrer chez moi? En tant que pêcheur?
Oui.
Alors, le bateau, il rentre au port, il rentre toujours dans le même port, en fait. Et donc, on habite proche du port. Et donc, on prend sa voiture et on rentre chez soi. Comme si on rentrait du travail.
Vous êtes déjà parti plus loin que la France, en bateau?
Ah, en Irlande, par exemple. En Irlande, au départ de chez moi, hein, donc rentrer en Irlande, et puis après, sinon, je suis allé naviguer ailleurs.
Bon, ça se déchaîne derrière, là.
Oui, je vois ça.
Vous nous avez dit vous avez attrapé un requin. Est-ce que vous avez relâché? Est-ce que vous avez donné à des gens ou est-ce que vous avez donné à des magasins poissons?
Alors ce gros poisson, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on n'a plus le droit de le pêcher. Donc la commission internationale interdit de pêcher de requin aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on l'a pêché, donc, c'était autorisé et il était commercialisé. C'est-à-dire que ce poisson, on l'a ramené à terre, il a été vendu sous criée, d'accord ? Il a été découpé et il a été mangé, certainement. Hein. Mais c'était une espèce, c'était une espèce autorisée à la consommation. Parce dans les requins, il y a différentes espèces. Il y a des espèces qui sont protégées, d'accord ? Et puis d'autres qui sont autorisées à la commercialisation. Et cette espèce, c'était un requinteau, et donc il était autorisé à la commercialisation. Et en fait, il n'aurait pas été autorisé, on n'aurait pas eu le droit de le mettre à la vente. Et donc, on aurait été obligé de le remettre à l'eau.
Ah.
Ok. Oui.
Est-ce que c'était dur de sortir le requin de l'eau?
Alors, je te confirme, c'était très dur. Parce qu'en fait, on a un mât de charge, c'est-à-dire qu'on a une grue hydraulique. Et quand on a monté ce poisson-là, la grue a plié. Donc oui, c'était très dur. Mais on a réussi.
A-t-il beaucoup de filles dans ce métier?
Ah, très bonne question. Alors, le comité national a fait un rapport l'autre jour, et en fait, ça représente à peu près 1%. Donc c'est très peu. Mais on a quelques filles qui naviguent à la pêche. Et par exemple, pour l'année prochaine, hein, on a une rentrée de CAP en apprentissage, hein, et il y a une ou deux filles, et c'est la première fois que ça arrive.
Okay.
D'accord. Et sinon, sur l'île 2, là, par exemple, où j'habite, hein, et donc il y a une fille qui navigue à la pêche, et qui va passer son brevet de commandement bientôt. Donc oui, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage.
A-t-il des accidents mortels?
Oui, mais comme dans le bâtiment. C'est des métiers qui se ressemblent, donc c'est un petit peu, en fait, quand les conditions vont, quand ça va de travers, donc ça, oui, ça peut devenir dangereux. Et c'est pour ça que la sécurité, donc la mise en place de la sécurité à bord d'un navire est hyper importante, pour qu'il n'y ait pas de blessés et surtout pas de morts. Parce qu'en fait, la particularité sur un navire, quand on est au large, quand on est loin de la terre, c'est que les pompiers ne peuvent pas intervenir, ni le SAMU. Et en fait, c'est le capitaine, hein, et les officiers du bord, hein, qui sont formés à pratiquer les premiers soins. s'il y a un blessé. Et il y a ce qu'on appelle un centre d'urgence radiophonique qu'on peut appeler. Hein, donc, et on a une aide par radio hein, pour pouvoir appliquer les premiers soins. Et puis sinon, il y a hélicoptère, en fait, il faut rentrer le plus tôt possible hein, pour dormir.
Rebonjour. Comment vous faites pour les gens qui n'ont pas, les stagiaires par exemple, qui n'ont pas forcément dit qu'ils ont des mal de mer?
Alors, le mal de mer, c'est rigolo que vous n'en ayez pas parlé avant. Le mal de mer, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire marin pêcheur, s'il est vraiment très 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 malade, il peut arrêter sa carrière à cause de ça. Mais souvent, je dis très souvent, on est malade au début et puis ça passe. On s'habitue au roulis, on s'habitue au mouvement du navire et puis ça passe. Et puis quelquefois quand on arrête un peu trop longtemps de naviguer, par exemple après des vacances, si on prend un mois de vacances, quand on va revenir en mer, on remonte sur le bateau et on a un petit peu la nausée de retour, hein, mais ça passe. Au bout d'un jour ou deux, ça passe.
Au début, vous nous avez dit, quand vous attrapez beaucoup de poissons, vous gagnez plus. C'était juste pour voir si c'était vrai, si j'avais mal compris, si vous avez bien compris.
En fait, quand le marin est rémunéré, il est payé par rapport à la vente. Donc, pour que la vente soit plus importante, il y a deux solutions. C'est soit on vend le poisson très cher, ou soit on pêche beaucoup. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est d'avoir du poisson de qualité pour vendre très très bien, pour le vendre le plus cher possible, et de pêcher le maximum de poissons de qualité pour gagner encore plus d'argent. Voilà.
Qu'est-ce qui l'a attiré, le requin?
Qu'est-ce qui l'a attiré?
Oui.
Le thon. Parce qu'il y avait du thon pris dans les filets. Et donc, il est venu manger le thon. Et du coup, il s'est pris dans les filets. Ah oui.
Est-ce que votre navire a déjà coulé ou ils ont...
Mon navire n'a jamais coulé. Hein, donc, justement, j'étais sur un superbe bateau qui faisait 22 mètres et c'était un très, très beau bateau. Et il n'a jamais coulé. Mais aujourd'hui, je vais juste comparer comment ce qui est. Parce qu'il peut y avoir des accidents en mer, hein, il n'y a pas de problème. Hein, mais il y a des accidents de voiture aussi. Hein, des accidents d'avion, il y a des accidents. Et en fait, le risque zéro n'existe pas. Mais heureusement pour moi, mon bateau n'a jamais coulé.
Nous tenons à vous remercier vivement de nous avoir éclairé sur ce métier. C'était passionnant. Au revoir.
Allez, merci beaucoup à vous. Merci pour toutes ces questions.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On a fait l'heure, ça va sonner, donc on a réussi à tenir, mais je crois qu'on pouvait continuer encore longtemps. Voilà.
Oui, je vois ça, mais en fait, c'est bien, ils sont intéressés.
C'est des questions qui, aux yeux d'adultes, sont peut-être, ponctuelles, un peu, mais pour eux, c'est des questions importantes parce que ça leur permet vraiment de découvrir, par exemple, sur tout ce qui est risque, accident. Donc, c'est très important.
Je n'étais pas inquiet hein, parce que j'ai déjà fait des forums avec les 5e SECPA. Là,
oui.
Et ils sont très, très curieux.
Oui, sur tous les métiers d'ailleurs. Hein, sur tous les métiers.
Ouais, beaucoup plus que les autres.
Et c'est ce qu'on se dit aussi. Voilà.
Félicitations à eux en tout cas.
Vous avez entendu?
Oui.
Félicitations à vous.
Voilà. Merci. Merci.
Merci beaucoup pour nous avoir permis ça. Donc, moi, je fais le montage. J'enlève quand on attend trop, parce que là, il y a le temps de déplacement. Je vous l'envoie, vous validez, et puis voilà, c'est parti.
Ok, c'est parfait.
Merci infiniment.
Je vous en prie, bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Salut, Jeanne.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. What is it? Oh, oh, non, vous vous rasseyez, ça n'a pas sonné. La